le genre et l'orientation des élèves.
Être et savoir, Louise Touret.
Aujourd'hui, 8 mars, c'est, vous le savez, la journée des droits des femmes. Et nous vous proposons une émission sur l'orientation genrée. Parce qu'indubitablement, être fille ou garçon pèse sur les choix scolaires et conditionne les études et les futurs métiers. Le genre est même une cause d'évitement de certaines spécialisations. Ainsi, saviez-vous que la très féminine série littéraire était la moins choisie par les filles? Et c'est parce que les garçons n'y vont pas que la réputation de littéraire colle à la peau de l'autre sexe. C'est un exemple parmi des dizaines qui comptent à la fois dans le lycée général, le lycée technologique et le lycée professionnel. Alors que la lutte contre les stéréotypes de genre est certes, avec des aléas évoqués comme une priorité du ministère de l'Éducation, comment expliquer que tant de filières demeurent presque totalement assignées à un genre ou à un autre ? Pensez soins et services à la personne pour les filles, pensez mécanique ou numérique pour les garçons. Ce dernier exemple devrait nous étonner, les métiers étant plus récents et les femmes ayant été aussi des pionnières de l'informatique. Bien entendu, toute la société doit s'interroger, les représentations doivent être questionnées, mais que peut l'école ? Nous allons tenter de répondre à cette question avec nos invités. Être et savoir, c'est en ce moment à 17h15 et non 17h le dimanche sur France Culture ou en podcast. Une émission préparée avec Avril Ventura et réalisée par Philippe Baudouin. Anthony Thomasson est à la prise de son aujourd'hui. En fin d'émission, une leçon de choses de Sophie Bobert avec Noémie Lvovsky. La réalisatrice et comédienne joue dans La Bonne Épouse, un film dont l'action se déroule dans une école ménagère. Un clin d'œil à notre sujet du jour. Bonjour Françoise Vouillot.
Bonjour.
Vous avez publié un livre très intéressant, Les métiers ont-ils un sexe ? C'est chez Belin dans la collection d'égal à égal. Il date de 2014, il est à mettre entre toutes les mains. Vous êtes également ex-maîtresse de conférences en psychologie de l'orientation, ancienne présidente de la commission lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux au Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous avez été en tout début de carrière conseillère d'orientation.
Oui, en tout début, vraiment, oui, pendant 4 ans.
J'en profite pour poser une toute petite question. C'est un métier extrêmement féminin.
Il l'est devenu. Et il est devenu de plus en plus au début de cette profession qui est née autour de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes. En tout cas, les hommes étaient très présents. Je ne veux pas vous faire toute l'histoire de cette profession, mais il y a eu de plus en plus de filles parce que la profession s'est mise à recruter que parmi des étudiants en psychologie, puisque les conseillers d'orientation sont devenus psychologues au niveau du titre de psychologue qui exige un bac plus 5 en psychologie. Donc, ça veut dire...
Ça ne fait pas partie des messages paradoxaux qu'on envoie quand on parle d'orientation genrée, le fait que les professions elles-mêmes soient assez genrées dans l'éducation.
Elle l'est, mais elle fait partie des professions dont le ratio entre les hommes et les femmes a bougé au cours de son histoire parce que le recrutement aussi a, notamment le recrutement a changé.
Ça vaut pour l'enseignement en général avec une féminisation de la profession dans le secondaire, on le sait, au cours de l'histoire. On reparlera de cet effet aussi de genre à l'école, chez les adultes. On en reparlera par exemple avec un professeur, et c'est un homme qui est avec nous. Bonjour Mohamed Grimège.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'une spécialisation plutôt masculine, l'informatique. Vous l'enseignez en BTS, Service des organisations scientifiques. Informatique. Vous êtes référent égalité filles-garçons du lycée Descartes de Champs-sur-Marne.
Tout à fait. En fait, c'est service informatique aux organisations.
D'accord. Merci. Je ne connaissais pas très bien cette spécialisation. Pourquoi avez-vous choisi de devenir référent égalité filles-garçons ?
Alors, souvent, on remettait des diplômes et c'était surtout des diplômés sans eux. Sur les 48 élèves de la promotion, il n'y avait aucune fille certaines années. Et on se posait la question, comment cela se fait-il ? Enfin, est-ce une tendance ? Est-ce quelque chose qui a toujours eu lieu ? Et souvent les anciens, donc les collègues qui partiront à la retraite bientôt, nous disaient que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et puis nous, quand on était étudiants, on était peut-être plus nombreux. Et on se dit, bah, il faut peut-être, faut engager des actions. On devrait faire quelque chose pour un petit peu développer l'attractivité de la filière.
Auprès des filles.
Auprès des filles. Voilà, tout à fait.
Et ça, vous le faites aussi avec des associations qui viennent vous épauler, comme Elle Bouge. Bonjour, Marie-Sophie Pavlak.
Bonjour.
Vous êtes présidente et fondatrice de cette énorme association qui mène un grand nombre d'actions.
Effectivement, donc l'association Elle Bouge, dont la mission est de susciter des vocations scientifiques, techniques, technologiques auprès d'un public de jeunes filles au moment de l'orientation, a bien grandi depuis 2005 et on agit auprès de plus de 30 000 jeunes filles par an, en face à face, lors d'à peu près 500 événements qu'on mène avec nos partenaires, qui sont des entreprises industrielles et technologiques, des établissements d'enseignement supérieur et tout un grand club de collèges et lycées.
Parce qu'il y a des espaces immenses à conquérir pour les filles et futures professionnelles. Mais cette question de filière qui se masculinise, dont les filles sortent peu à peu, c'est le cas pour les métiers liés à l'informatique. Cette tendance nous interroge, Françoise Vouillot, parce que on se dit que la société progresse. Et là, pour le coup, finalement, la masculinisation s'est renforcée. Comment vous l'expliquez-vous?
C'est à partir du moment où, d'une part, les métiers et donc les formations se sont diversifiées dans ce secteur-là, qu'elles ont monté en puissance, en prestige, en valorisation des personnes qui l'exercent, et puis se sont vues petit à petit affublées dans les représentations de caractéristiques jugées, je mets des guillemets, plutôt masculines, c'est-à-dire être très, par exemple, très bon en maths. Alors dans notre pays, les mathématiques, c'est quand même devenu le sommet du savoir prestigieux et un petit peu élitiste, et donc petit à petit, les garçons sont venus plus en masse sur ces métiers là et on va retrouver dans ce secteur les effets un petit peu de plafond de verre qu'on trouve aussi dans d'autres secteurs. Parce que dans certains pays, comme elle le montre, notamment en Malaisie, mais pas seulement, mais il y a beaucoup de filles qui sont diplômées du numérique, etc. Mais c'est parce que la représentation du métier n'est pas vue avec les attributs de la masculinité. Elle voit plutôt que c'est un métier qu'on peut exercer en partie chez soi, donc c'est bien pour continuer à s'occuper des enfants. C'est pas que le modèle des rôles de sexe traditionnels...
C'est pas totalement rassurant non plus.
Oui, mais c'est ça qui est important de voir, c'est la complexité des facteurs qui entrent en ligne de compte et qui répondent de la présence ou de l'absence d'un des deux sexes dans telle ou telle formation et donc dans tel ou tel métier. Donc oui, chez nous, il y a eu une perte sensible de la part des filles et des femmes dans les formations et dans les métiers en question. Oui.
Ces représentations, elles sont essentielles. L'école doit y travailler et même les élèves le pensent. En tout cas, ces élèves de seconde, alors ils sont en santé sociale dans un lycée de Longperrier. Je les ai rencontrés dans le cadre d'ateliers pédagogiques de Radio France. Ils m'ont demandé de ne pas citer leur nom, donc je ne le fais pas. En revanche, on va bien entendre leur voix.
Je trouve que dans le terme ingénieur, on pense plus à un homme en tant qu'ingénieur, alors qu'une femme ingénieur, pas pour moi personnellement, mais ingénieur, ça serait plus homme plutôt que femme.
Le mot, il n'a pas de féminin. Il n'y a que, on dit un ingénieur homme ou un ingénieur femme. On peut pas dire une ingénieuse. Et ça, du coup, quand on entend ça, on pense forcément à un homme.
Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire ?
Infirmière.
Est-ce que tu penses que c'est plutôt un métier féminin ?
Oui, mais je pense que... Enfin, non. Non, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais, c'est mieux vu pour... Enfin, on voit mieux que c'est des femmes que des hommes, en fait, qui font ça. Parce que peut-être une infirmière, ça s'occupe des patients. Et du coup, peut-être on se dit qu'un homme, ça peut pas s'occuper autant qu'une femme des patients.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que c'est faux.
Je pense qu'un homme, il a le droit de faire le métier qu'il veut. Et pareil pour une femme. Parce que dans tous les cas, il y a toujours des gens pour juger. Faut faire ce qu'on veut. Parce que c'est pas les autres qui vont décider notre avenir.
Est-ce que ça vous aurait aidé, vous, personnellement ou collectivement, ou pour tout le monde, votre génération, qu'on vous en parle davantage en classe, des stéréotypes et de la manière de les déconstruire? C'est la formule qu'on emploie souvent, déconstruire les stéréotypes, pour parler du fait que les métiers, par exemple, devaient être accessibles à tout le monde. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous en parle plus?
Oui. Bah ouais, qu'on fasse des débats dessus, qu'on échange, quoi.
Moi, je pense qu'il aurait fallu plus en parler, parce que plus on parle de ça, plus les gens ils vont changer d'avis et vont se dire que finalement, un homme il a le droit de faire tel métier, pareil pour une femme.
Ça nous mettrait plus à l'aise d'en parler plutôt que de le garder pour soi-même et de tout recevoir dessus directement. Il y a beaucoup de préjugés dessus, mais c'est pas les gens qui vont prévoir notre avenir, c'est pas les gens qui vont décider de ce qu'on veut faire plus tard.
Mais peut-être que les professeurs aussi sont mal formés par rapport à ça. Peut-être qu'on leur dit pas forcément que... Peut-être qu'ils savent pas non plus que... On est bloqué par rapport à des stéréotypes et du coup que ils sont pas formés pour nous aider ou pour même nous enlever les stéréotypes de notre tête, quoi.
Des élèves de 15 et 16 ans, ils sont en seconde et on voit qu'ils ont déjà pas mal réfléchi à cette question. Mohamed Grimage, vous êtes ingénieur, oui. Une profession extrêmement masculine, les élèves l'ont souligné. Que pensez-vous de ces propos, en particulier ceux tenus sur la formation des enseignants?
Avant la formation, juste un propos sur le chiffre, une précision sur le chiffre. Le rapport des défis dans les écoles d'ingénieurs, il a à peu près pas trop changé sur les 20 dernières années, entre 20 et 30%, j'ai l'impression. Après, Marie-Sophie Pollock peut-être apportera une précision. Il y a toujours 20% de filles, à peu près, dans les écoles d'ingénieurs. Maintenant, sur ce qu'a dit l'élève de seconde sur la formation. Alors, il y a énormément de formations dans le plan académique de formation. J'en ai profité moi-même, cette année, par exemple. Donc, il y a des formations autour de l'égalité filles-garçons, autour du genre, que ça soit vraiment dans le module CIV, enfin CIV, tout ce qui est CIV et citoyenneté, ou des modules plutôt ouverture.
Parce que votre académie, c'est l'académie de Créteil, est dynamique sur.
On a une mission. Alors, il y a des missions égalité dans toutes les académies. Notre académie, dont je fais partie, je la connais mieux que les autres, forcément. Il y a une mission très active et il y a des formations. Et j'en ai profité cette année, il y avait des sessions de formation, il y avait 60 professeurs dans celle où j'étais, par exemple.
Alors, de quoi vous parlez dans ces formations et à quoi ça aboutit comme action dans votre lycée, dans votre établissement auprès des élèves?
Alors, cette année, c'était l'éducation aux médias. Donc, c'est une formation sur le champ des médias et les stéréotypes à travers les médias. Donc, on était en face, au CSA, par exemple. Donc, le partenaire, c'est le CSA. Pour moi, c'est très instructif parce que ça m'apportait des notions méthodologiques et des notions, de culture qui n'étaient pas forcément ma première approche, très empirique. Je pourrais vous en parler de ce qu'on fait, par exemple, au lycée depuis 5 ans. Mais ça m'ouvre des champs d'exploration nouveaux sur l'exploration des médias, sur la perception justement des élèves, de leur perception des métiers, parce qu'en fait les élèves disent que on nous en a pas parlé, mais d'autre part moi ce que j'observe c'est que les élèves ne se projettent pas dans certains métiers, les filles disent non ça m'intéresse pas, et en fait c'est ce petit ça m'intéresse pas ou je veux pas faire de l'informatique parce que ça ne m'intéresse pas, mais en fait souvent parce qu'elles ne connaissent pas, on ne leur en a pas assez parlé, peut-être plus que le genre, plus que le stéréotype, on va dire. Il fallait leur parler d'informatique, et c'est vrai, ou les sortir, les emmener dans des entreprises, rencontrer des personnes, des femmes ingénieures, des femmes informaticiennes, et les faire venir en classe, ces femmes informaticiennes, pour que les filles s'y projettent davantage. Ça, c'est mon approche empirique, vraiment terrain, sur le retour d'expérience des 5 dernières années de ce qu'on fait depuis que je suis à Réforme Égalité au lycée Descartes.
Pour ouvrir le champ des représentations, Marie-Sophie Pavlak, c'est ce que vous faites avec l'association Elle Bouge. Alors, il y a plein d'actions. Je pense en particulier là au mentorat avec des femmes qui peuvent représenter une forme de modèle, par exemple, pour des jeunes filles. À quoi pensez-vous, vous? Je vous vois faire.
Oui, le mentorat, c'est un terme qui est plus réservé à des politiques d'égalité professionnelle au sein des entreprises, où donc les femmes ou les hommes qui sont déjà depuis quelques années dans l'entreprise peuvent devenir des mentors et mentorer des plus jeunes. Et donc, on fait beaucoup de mentorat au féminin, donc notamment mentorer de plus jeunes femmes qui viennent d'intégrer l'entreprise pour leur donner tout de suite les codes et qu'elles puissent accéder plus rapidement à d'autres responsabilités et avoir plus de mobilité professionnelle.
Et du côté du rôle modèle voilà. de ces femmes qui peuvent incarner quelque chose dans lequel, quelque chose en tout cas, un métier dans lequel les lycéennes peuvent se projeter.
Donc effectivement, c'est ce qu'on fait tous les jours avec l'association Elle Bouge, parce que c'est tous les jours le 8 mars avec l'association Elle Bouge. On a tous les jours des événements où donc nous, nos rôles modèles, on les appelle les marraines. Et donc ce sont des femmes en activité dans les entreprises qui sont membres d'Elle Bouge. C'est quelles entreprises sont des entreprises industrielles, technologiques. Et donc ces femmes-là viennent sur des événements qu'on peut organiser soit au sein de salons industriels, comme par exemple le salon du Bourget ou le salon de l'automobile ou Vivatech, ou alors qu'on organise des événements en propre à Elle Bouge, qui va s'appeler Elle Bouge pour l'énergie ou Elle Bouge pour la défense nationale, etc. Où on va faire sur toute la France 50, 60 événements, ou prochainement pour la semaine de l'industrie, il y a une centaine d'événements qui sont prévus, ou même à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, on fait un petit tour du monde justement de ces événements de témoignages où on sort les jeunes filles du collège, du lycée, on les emmène sur les sites pour qu'elles rencontrent des femmes, pas une seule femme, plusieurs, pour qu'elles aient plusieurs modèles, justement, parce que ingénieur, technicienne, c'est pas un métier, c'est des dizaines et des dizaines de métiers, donc elles aient plusieurs représentations, qu'elles puissent écouter leur parcours, aussi bien en termes de formation que leur parcours au sein de l'entreprise quand elles sont un petit peu avancées. C'est très important qu'il y ait des rôles modèles qui soient très jeunes, qui viennent d'intégrer l'entreprise, pour qu'elles puissent se retrouver, se projeter en se disant « moi j'ai envie d'être comme elle ou comme elle » quand elle me raconte ce qu'elle fait, et qu'elle se voit même physiquement. Parce que souvent, justement, on parlait des médias, donc quand c'est les médias de la presse, on peut faire des tas d'articles sur les femmes et l'industrie, et hop, on vient mettre forcément une photo d'une femme en bleu de travail ou avec un casque de chantier, etc. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection industrielle.
Il y a aussi du jargon hein, dans l'industrie,
voilà.
C'est un casque.
Et par contre, c'est pas porté 24 heures sur 24. Ceci dit, c'est un petit peu préjudiciable si les jeunes filles voient ça, parce qu'elles vont tout de suite imaginer que ingénieur, c'est casque de chantier et gilet, alors pas jaune, on va changer de couleur pour pas faire de polémique, gilet de sécurité.
Mais en tout cas, c'est sur un chantier et pas forcément dans un bureau.
Alors que justement, oui. C'est justement ingénieur, technicien, ingénieur, alors oui, comme l'a souligné le jeune homme qui était interviewé, ça existe, ingénieur au féminin, c'est une ingénieure, il n'y a pas besoin de dire femme avant. L'académie nous l'a permis très récemment. Et donc qu'elles se projettent aussi, même physiquement, qu'elles se reconnaissent dans les atouts et qu'elles se disent que ça n'empêche pas la féminité. Voilà, ça c'est important aussi, parce que quand on a entre 15 et 18 ans, c'est l'âge de l'orientation, et on veut se projeter évidemment, enfin on essaye de se projeter dans une vie professionnelle, c'est compliqué. Mais c'est très compliqué quand on n'a pas une vocation depuis toute petite, mais on veut aussi se projeter dans une vie en tant que femme. Donc on veut pouvoir se reconnaître dans différents modèles.
On parle des ingénieurs, on parle de filières valorisées dans lesquelles on voudrait voir plus de filles. Je voudrais aussi parler des métiers féminins qui sont moins valorisés. Par exemple, le service à la personne, ça pourrait intéresser énormément de garçons qui y vont très peu. On a aussi parlé des filières littéraires qui, à leur manière, alors il n'y a plus de filières, hein, avec le nouveau bac, ça va peut-être changer, mais n'étaient pas très valorisées. Cette histoire de valoriser, finalement, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu dangereuse, Françoise Vouillot, en mettant en avant des métiers d'hommes comme des métiers qui pourraient être aussi accessibles aux femmes parce qu'elles le méritent? Est-ce qu'on ne participe pas à dévaloriser des métiers féminisés?
Je ne sais pas si on participe à leur dévalorisation, en tout cas en laissant dans l'angle mort des observations et des analyses la moitié du phénomène, qui est celle qui concerne, comme vous l'avez dit, l'absence encore plus criante des garçons et des hommes dans les métiers majoritairement, donc du coup, exercés par les femmes et qui ont été mis dans ce que moi j'appelle la panoplie de la féminité depuis très longtemps, c'est-à-dire tous les métiers de l'éducation de la petite enfance et du soin à la personne. Donc on peut y rajouter maintenant la communication, des choses comme cela. On n'arrivera pas à cette mixité si on s'intéresse pas en même temps à cette question-là. Alors je suis pas sûr qu'on dévalorise, mais je reste quand même sur ce terme de dévalorisation parce que c'est quand même bien de ça aussi dont il s'agit. Tout à l'heure on parlait des métiers de l'informatique, mais quand ils sont montés en prestige, et ben les garçons s'ils sont pointés et sont devenus majoritaire. C'est très très important et dans notre pays, on est très très fort sur les hiérarchies de prestige. Mmh. Alors, effectivement, les métiers où sont majoritaires les garçons, ben, surtout pour les métiers qui, on va dire, rémunérateurs, donc ils rémunèrent, ils proposent des développements de carrière intéressants et ils vous assurent quelque chose qui est important pour les humains, c'est la considération et l'estime sociale. Donc, on va plutôt vers là. Les métiers majoritairement exercés par les femmes vous sont mal payés, proposent quasiment aucun développement de carrière et sont pas considérés socialement.
Alors, donc, on ouvre une parenthèse, ça existe aussi pour certains métiers très masculins de l'industrie.
Tout à fait. Il y a des métiers quasi exclusivement exercés par des hommes
et qui
sont peu valorisés socialement, etc. Mais dont on va dire, en fait, mais il y a quand même que les hommes qui peuvent exercer ça. Donc l'absence effectivement de valorisation des formations et des métiers majoritairement exercés par les femmes est pas du tout un attrait pour les garçons, puis ça se comprend. Tout à l'heure, monsieur, vous disiez que finalement le manque d'intérêt des filles pour les filières informatiques numériques était peut-être ce manque, si j'ai bien compris,
le manque de projection,
leur manque d'intérêt est peut-être plus fort que les stéréotypes. Je veux pas contredire ce que vous dites, mais simplement faire un lien entre les deux. C'est que les intérêts au moment des choix d'orientation, ils se fabriquent dès la naissance dans tous les lieux de socialisation, d'abord la famille, etc. C'est-à-dire que les petits garçons et les petites filles ont une socialisation différenciée, ils sont pas exposés aux mêmes jouets, ils sont pas exposés aux mêmes activités, et les intérêts, c'est pas inné, c'est des choses qui se construisent. Donc les garçons apprennent à s'intéresser, je caricature un peu, mais en gros à ce qui est attribué aux garçons. Et puis les filles apprennent à s'intéresser à ce qui est attribué aux filles. Et du coup, à se désintéresser de ce qui est convenant à l'autre catégorie de sexe.
C'est pour ça que je formulais la question en ces termes. Que peut l'école, alors que les représentations sont déjà tellement construites et que cette peur du féminin est ancrée dans pas mal d'esprits, c'est-à-dire pour un garçon de jouer à la poupée quand il est tout petit, alors pas dans toutes les familles, pas partout, pas tout le temps, mais majoritairement du rose, évidemment, qu'on ne peut absolument pas porter si on est un petit garçon, et puis plus tard, certaines idées de métier ou d'orientation.
Oui, alors quand on dit qu'est-ce que peut l'école, si on situe qu'au moment des premiers paliers d'orientation avec qui tombe en plus à un moment du développement des jeunes très particulière, quoi, l'adolescence, la puberté, etc., qui est une période de remaniement identitaire, de nouvelles quêtes de soi. Françoise Dolto parlait de la mue du homard pour cette période-là, et c'est cette période où il y a une forme de précarité identitaire, de fragilité de soi, où on demande aux enfants de super investir à l'école, d'être capables de montrer leurs performances, de faire des bons choix d'orientation, c'est peut-être pas, entre guillemets, le meilleur moment. Alors, l'école peut quelque chose, mais à condition de pas se préoccuper de cette affaire-là à coup de quelques interventions au moment des premiers paliers d'orientation, surtout quand ils tombent dans la période, je viens de dire, où au contraire, les filles et les garçons vont se crisper sur les normes de masculinité et féminité pour les raisons qu'on devine, de relations entre eux et entre elles. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut commencer. L'école, elle peut. Bien sûr, puisque l'école peut être obligatoire, est obligatoire maintenant à partir de l'âge de 3 ans. Donc c'est dès le début de l'école maternelle qu'il faut développer une éducation à l'égalité. Donc former tous les personnels de l'éducation nationale, mais vraiment les former. Une vraie formation qui aura un effet sur les pratiques professionnelles pour qu'on ne continue pas à pérenniser des stéréotypes de sexe, des normes de masculinité et féminité, et que dès leur plus jeune âge, les enfants soient amenés à déconstruire un petit peu ces stéréotypes qu'ils ont déjà rencontrés avant 3 ans. Hein. Ils les ont déjà rencontrés souvent dans les familles ou dans d'autres lieux de socialisation. Et l'école peut ça.
Des stéréotypes qui circulent partout. Alors, que peut l'école ? On la pose, cette question, évidemment, à vous, l'enseignant, Mohamed Grimaj. On vous entend écouter Françoise Vouliot avec beaucoup d'intérêt. Mmh. Alors, évidemment, il y a des événements organisés avec les élèves, des événements ponctuels. Mais ça se travaille aussi toute l'année, cette question de l'égalité, de l'accès au maximum de choix, en fait, pour le dire très simplement. Comment ça se travaille au quotidien, cette question ?
Alors, juste pour rebondir à votre question... En fait, ça, j'étais un peu rapide en disant manque d'intérêt, mais en fait, nous, c'est comment se manifeste en fait ce non-choix, parce qu'on s'accroche à l'orientation, et à un moment donné, et il y a un non-choix de cette filière, on les questionne, et en fait, c'est qu'ils ne s'y sont pas projetés. Enfin, ne voyez pas dans manque d'intérêt.
Le manque d'intérêt,
c'est vrai, c'est une formule négative, mais bon, c'est pas forcément. C'est vraiment ce non-choix, et on voudrait qu'elles choisissent en connaissance de cause. Et tout à l'heure, on m'avait posé une question, pourquoi, je suis référent et pourquoi et aussi référent égalité et j'agis beaucoup pour les filles du lycée et je suis donc un garçon. Moi j'ai une fille.
Ou même si vous étiez une femme, hein, oui. c'est sur les racines de votre engagement.
Voilà, j'ai une fille et je voudrais que, enfin j'ai des garçons et une fille, deux garçons et une fille et je voudrais qu'elle aille au collège, je voudrais que lorsqu'elle fera son choix, elle le fasse vraiment en toute liberté, sans ce poids social des stéréotypes. Et je vous rejoins donc pour répondre à votre question. Oui, parce que il y a tout un poids de ce qu'il voit dans les médias, de ce qu'il voit dans les catalogues de jouets, et du coup il y a des choses, il y a des champs pour hommes, des champs pour. Et il faudrait qu'on descende encore plus. Alors, ce qu'on fait au lycée, je me rends compte qu'il faudrait peut-être le faire au collège. Et puis aller peut-être plus bas encore, mais après...
Ouais. Dès le primaire, si on peut.
La maternelle.
J'ai l'impression qu'il faut aller de plus en plus bas. Mais bon, je vais détailler, répondre à votre question.
C'est travailler à travers des débats aussi par certains enseignants dans les petites classes, mais voilà. Sur la manière dont on parle de tout ça quotidiennement, comment ça s'inscrit dans un enseignement et pas seulement dans des séries d'événements ponctuels.
Alors, au niveau de notre établissement, donc on a inscrit l'égalité filles-garçons dans le projet d'établissement depuis 2017. Donc, c'est inscrit au projet d'établissement. Donc, du coup, le conseil d'administration, les parents, on s'en informait, les élèves le savent. Tous les collègues prennent conscience de cet engagement. Donc, ça rejoint ce que vous disiez sur la formation, sur l'engagement de tous, parce que c'est pas une personne. L'égalité, c'est pas juste le référent, c'est toute une équipe. Et il y a toute une équipe de collègues qui sont engagés, qui développent des pédagogies autour de l'égalité. Par exemple, les collègues d'anglais ou d'espagnol abordent cette question-là, la question des droits des femmes, la question de la représentation des femmes dans la société, en civilisation hispanique, chez les anglo-saxons, l'histoire des suffragettes, etc. Par exemple, en STMG, sciences et techniques du management, il y a les ressources humaines. Dans les ressources humaines, à un moment donné, ils parlent de performance sociale, de responsabilité sociale et environnementale. Et on retrouve encore la représentation des... on parle de recrutement, on voit que l'assistante, ça pourrait être... Pourquoi ce serait toujours une assistante ? Pourquoi ce serait pas un assistant ? Pour rejoindre aussi la question sur les métiers féminins, mais qui pourraient être masculins. Enfin, l'assistanat pourrait être largement investi par les garçons.
On parlait de représentation. Alors justement, dans son rapport annuel du 2 mars, le Haut Conseil à l'égalité épingle les émissions de télé-réalité. Évidemment, elles font circuler beaucoup de représentations ultra-stéréotypées. On en a choisi une au hasard, il y en a d'autres. Celle-là, c'est les Marseillais au Mexique.
Coucou, moi c'est Océane. J'ai 26 ans et je partage ma vie entre Marseille et Paris.
Okay.
Je travaille sur Paris parce que j'adore la mode et d'ailleurs j'en ai même fait mon métier.
Click, click. Yeah.
Pause. Je suis modèle photo et influenceuse.
Pause.
Souvent les gens s'arrêtent à mon physique, mais j'ai aussi du caractère. Je suis sociable et souriante et j'ai une relation très fusionnelle avec ma soeur jumelle et mon frère.
C'est très coupé, très haché comme montage, évidemment, et ça s'inscrit dans des représentations qui circulent dans ces émissions de télé-réalité où on voit des filles qui mettent en avant leur corps, alors qui sont aussi jugées sur leur personnalité, mais le physique, évidemment, compte énormément pour les filles et les garçons, d'ailleurs, qui sont dans des rôles ultra, ultra genrés. Et il faut dire aussi que les histoires qui dominent dans ces téléréalités, ces programmes, sont d'ordre sentimental en général, et c'est ce qui les préoccupe le plus. On est loin, évidemment, des études. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise Vouillot ? Est-ce que ça a une influence ? Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur les représentations des adolescents ? Sans parler d'influence directe, parce que je crois qu'il y a pas mal d'ironie aussi dans le regard des ados, mais bon.
Oui, oh ben, dire que ça n'aurait pas d'influence, ça serait méconnaître la puissance quand même des images et de ce type d'émission qui reste, d'après ce que j'ai cru comprendre, un type d'émission encore bien regardé par les adolescents et les adolescentes, parce qu'en moyenne, ils regardent quand même moins la télé que les générations précédentes. Mais encore pas mal, et en particulier ce type d'émission. Alors oui, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, enfin une espèce de concentré, je vais dire, d'un prototype de fille féminine, quoi. Elle est surtout préoccupée. Mais je suis embêtée de dire ça parce que je voudrais pas donner l'impression de juger cette jeune personne que je ne connais pas et qui a certainement d'autres dimensions que celles qu'on a entendues. Mais enfin, dans sa présentation de soi, dans ce type d'émission, c'est
la présentation qu'elle fait pour cette émission.
Voilà. Donc c'est l'apparence physique, c'est la féminité. On n'entend pas beaucoup parler de qualité de caractéristiques autres. Enfin, elle a dit ici qu'elle avait quand même du caractère. Il me semble à un moment. Donc c'est vrai que c'est embêtant, quoi, parce que ces émissions, elles ont forcément une influence, au moins sur les adolescents et les adolescentes qui les regardent, parce que je pense qu'il y en a aussi qui ne les regardent pas. Et de ce coup, ça me refait penser à un propos de Marie-Sophie Povlak tout à l'heure sur cette question de la féminité, quoi. Cette crainte de perdre, disait qu'il fallait rassurer les jeunes femmes comme quoi elles peuvent rester féminines tout en faisant un travail majoritairement exercé par les hommes. Moi, j'avoue, je ne comprends pas bien de quoi on parle dans ces cas-là. Enfin, les métiers, c'est un assemblage surtout quand même de compétences qui s'acquièrent quand elles-mêmes n'ont pas de sexe, et que pour exercer certains métiers, de temps en temps, faut mettre une combinaison bleue et un casque sur la tête, ou d'autres vêtements professionnels. Et tant qu'on sera dans cette forme de « les filles, vous pouvez faire ce que font les garçons, mais vous inquiétez pas, vous allez quand même rester des vraies filles féminines », on va un peu dans une impasse, parce que ce qui caractérise profondément la féminité devient presque incompatible justement avec ces fonctions ou l'exercice de ces métiers qui sont vus comme masculins. Je crois qu'il faut arriver à subvertir cette question du masculin et du féminin.
Parce qu'il y aurait conflit entre la personne qu'on est et ce qu'on pourrait vouloir faire.
Oui, parce que
c'est posé comme ça, en quelque sorte.
Mais c'est-à-dire qu'il y a, en plus, il y a qu'aux filles qu'on oppose cette espèce de dilemme ou de conciliation qu'il faudrait qu'elles aient entre montrer les mêmes compétences, la même valeur professionnelle que les hommes et les garçons qui sont depuis toujours ou presque dans ces métiers-là, tout en restant des vraies filles et des vraies femmes féminines.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec le sujet, parce que en fait, majoritairement, les filles ont envie de se projeter aussi dans une construction féminine. Donc, leur montrer finalement que les femmes ingénieures, c'est madame tout le monde, et qu'elle peut être féminine ou pas d'ailleurs, sportive ou élégante, ou voilà. Ça, c'est important qu'elles puissent se reconnaître et qu'elles soient pas limitées à un seul attribut.
Un autre rapport cette semaine, un rapport sur l'orientation et l'égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Il est signé Salomé Berliou et elle s'interroge sur ces jeunes filles qui, à 80%, souhaitent travailler avec des enfants ou des animaux. On est encore dans le soin. Et là, à la barrière du genre s'ajoute une barrière géographique. Finalement, évidemment, cette question de l'orientation, elle croise plein de sujets sociaux, géographiques, on l'a dit, et celle du genre. Ça fait beaucoup pour l'école, mais Françoise Bouillot.
L'orientation est le plus puissant révélateur des déterminismes sociaux qui pèsent sur les jeunes, garçons et filles, et qui traversent donc l'école et les déterminismes sociaux, les inégalités qui leur sont associées. Donc en territoire rural, se combine la question de la mobilité aussi. C'est-à-dire que pour une partie des garçons aussi, hein. Et pour les filles, bah, de partir loin, de pas rentrer tous les soirs à la maison, etc. Il y a certainement des obstacles aussi là qui s'ajoutent. Alors oui, elles sont intéressées par les métiers du soin aux enfants, du soin aux personnes, du soin aux animaux, puisque là on en voit plus qu'en centre-ville. C'est pas tout à fait étonnant. Et je voudrais dire quelque chose que je voulais rajouter tout à l'heure, mais qui du coup peut se placer ici. Il y a l'école, mais avant l'école, il y a quand même les parents. Il y a une belle enquête de l'INED qui était parue, qui montre qu'au cinquième mois de la grossesse, là où on donne le sexe probable de l'enfant à venir, des parents de l'enquête en question, qui sont des cadres de la région parisienne, commencent à traiter le futur enfant déjà comme une fille ou comme un garçon. Et c'est là que tout commence. Elle manque d'intérêt pour les filières techniques, etc. Le bleu de travail, ça risque de les dissuader. Mais les jouets qu'on offre, pourquoi pendant des années on n'offre pas aux filles les jouets qu'on offre aux garçons, qui sont le prototype du mécano de nos grands-pères, ou, enfin pour moi, vos arrière-grands-pères, pour vous. Il faut les offrir aussi aux filles. Et si on veut que les garçons s'intéressent un petit peu au métier de l'éducation, du soin aux autres, il ne faut pas les priver des jouets qu'on offre aux filles, c'est-à-dire les poupées, vous savez, tout ce qui représente le domestique, hein, le four à micro-ondes, la cuisine, etc. C'est très important, ces jouets. Il faut les offrir aux filles, mais aux garçons, parce que ça développe quelque chose qui est un peu particulier à notre condition humaine, c'est la fonction symbolique. C'est-à-dire cette capacité à rentrer dans des rôles, à faire de l'imitation et à entrer dans des dialogues avec des personnages un petit peu imaginaires, etc. C'est très, très important. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans cette capacité qu'on appelle l'empathie, qui est quelque chose qui s'apprend. Les petites filles l'apprennent très tôt à travers les jeux de rôle et les jouets qu'on leur offre. Il ne faut pas en priver les garçons, parce que du coup, à l'adolescence, ils n'y pensent pas à ces métiers, puisqu'on les a écartés. Puis on leur a dit, c'est pour les filles, quand même moins bien pour ce qui est pour les filles. Et puis les filles, il faut leur offrir aussi les poupées, mais il faut aussi leur offrir tous ces jeux de construction qui, pendant que le cerveau est en développement, va permettre le développement de compétences cognitives utilisées dans certaines matières scolaires, dont la géométrie, puis d'autres matières qui vont être utilisées dans les fameuses filières qui mènent aux métiers techniques, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois, toutes les références évoquées dans cette émission, à la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture. N'hésitez pas à dérouler notre bibliographie et dans quelques secondes, la leçon de choses de Sophie Bobert. Noémie Voski joue dans La Bonne Épouse, un film qui se déroule dans une école ménagère réalisée par Martin Provost. C'est aussi la réalisatrice d'un film qu'on adore, Camille Redouble. Et elle s'est confiée cette semaine à Sophie Bobert. Elle parle de la naissance de son amour du cinéma et de la fiction.
Si vous me posez la question de mon enfance et des racines de mon amour du spectacle, peut-être, hein, que comme il n'y avait pas de photos de famille, il n'y avait pas d'objets de famille, il n'y avait pas de famille, il y avait une espèce de désert. Et sans que je sache, petit enfant, sans que je sache pourquoi ce désert, je sentais bien que la raison de ce désert, ce pourquoi, ben, bizarrement, les copains, les copines d'école, ils faisaient Noël, qu'il y avait une famille qui faisait Noël, des albums de famille, voilà. Et puis chez moi, pas. Je sentais bien que c'était des raisons pas très heureuses. Pour pas dire tragique, quoi. Et du coup, je crois que j'ai senti très, 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 très tôt que la fiction et le spectacle, pas seulement la fiction, le spectacle pouvait me sortir d'une réalité toute crue qui était impossible à appréhender. Parce qu'il m'a toujours porté de la plus petite enfance à aujourd'hui, c'est l'amour et le besoin de spectacle, la nécessité de fiction. Je crois vraiment au plus loin de mes souvenirs. Donc ça a vraiment très 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 petite. J'avais envie et besoin de spectacle.
Votre père, je crois, vous surnommait Harpo.
Oui. En fait, les premières images, c'est-à-dire que chez moi, il n'y avait pas de photos de famille et encore moins de petits films de famille. Et les premières images, c'était des films de fiction, et c'était les films de mon père, c'était les films qu'aimait mon père, et des films qui lui faisaient changer de visage. C'est-à-dire, j'adorais voir le visage de mon père changer, passer d'une très grande gravité au sourire, au rire et à l'émerveillement. Et ces films, c'était les films de Fred Astaire, enfin les films avec Fred Astaire, les films de Chaplin et les films des Marx Brothers.
C'est-à-dire que vous le regardiez lorsque lui suivait un film à la télévision?
Oui, souvent j'étais dos à l'écran pour pouvoir voir le visage de mon père changer et s'émerveiller.
C'est lui qui vous a transmis cet amour du cinéma, c'est votre père?
Je crois, oui. Oui, je crois. Il l'a su très tôt, hein. Il l'a su quand j'avais, je sais pas, 4 ans, 5 ans.
Oui, c'est très tôt ça.
Oui, il l'a su quand je lui ai dit que j'avais envie de faire l'école du cirque, et pas l'école du cirque du mercredi, je voulais être à l'école du cirque tous les jours. Je voulais que ce soit ça ma scolarité, parce que j'avais envie d'être clown.
D'être Harpo.
D'être Harpo, oui. Et j'ai deux souvenirs très forts de films qui m'ont fait mesurer la puissance de l'écran. C'est Blanche-Neige, de Walt Disney, quand j'étais toute petite. Et ensuite, la projection au collège de Nuit et brouillard d'Alain Resnais, quand j'avais 11 ans, je crois. Voilà. Et là, j'ai pris la puissance de l'écran en pleine figure, quoi. Avec ces deux films. Et elle a pu me faire peur, cette puissance.
C'était l'actrice et réalisatrice, et c'est rare, Noémie Lvovsky. On se retrouve la semaine prochaine à 17h15 pour parler des monstres à propos d'une exposition qui s'ouvre bientôt au musée d'Orsay et de tous ces livres qui parlent de monstres et qui passionnent tant les enfants. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée sur France Culture.